À voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Alain Prochian. Ce soir, l'art d'inventer son langage.
Bonsoir Alain Prochian.
Bonsoir.
C'est le quatrième soir qu'on se retrouve. Lundi soir, nous avons parlé de votre période de formation, du début de vos études. Mardi, nous avons parlé de votre découverte majeure concernant les homéoprotéines et la difficulté que vous avez eue parfois à faire accepter cette découverte et en même temps les amitiés que vous avez nouées autour de ces travaux de recherche. Hier, nous avons parlé de vos maîtres en sciences comme ailleurs. Et on s'est quitté en parlant du tragique de la condition humaine. Alors je voudrais comprendre ce rapport au tragique et savoir si, d'une certaine façon, la science, comme les arts, a pour fonction de nous éclairer sur le tragique de notre condition.
La science et les arts sont des choses différentes. Les arts probablement relèvent d'une façon de comprendre le monde, mais avec des outils qui sont différents de ceux de la science. Par exemple, si bon, prendre un Cabateau, par exemple, Proust, par exemple, vous apprend sur ce qu'est l'humain ou les sociétés humaines d'une façon très différente, mais c'est une approche extrêmement fine et très enrichissante. Mais ça n'a rien à voir avec une approche scientifique qui est quand même des présupposés intellectuels et méthodologiques qui sont impératifs. Donc non, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que comprendre le monde, ça demande différentes approches et l'approche scientifique est une des façons de comprendre le monde. Maintenant, comprendre l'humain, l'humain fait partie du monde, il fait partie de la nature, on en a parlé hier ou avant-hier. Et comprendre l'humain, c'est aussi ça demande aussi une partie scientifique. Donc, l'humain, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce sont des animaux qui ont une conscience très développée. Je ne dis pas que les autres animaux n'en ont pas, hein, mais qui, à cause de ces 900 cm3 de trop et placés dans des endroits très spécifiques du cerveau, ont une connaissance du monde et une capacité d'anticipation de ce qui va leur arriver. Qui fait que, bien entendu, ils sont obligés de réfléchir sur leur position dans l'histoire de l'univers, hein, d'une certaine façon. Et on sait bien ce qui va arriver, même si à chaque fois c'est de l'impensable, ça arrive quand même. Bon, dans 3 milliards d'années, les astrophysiciens nous disent que le système solaire va exploser. Voilà, donc ça c'est une réalité à laquelle il faut faire face, même si on a un peu de temps.
Vous êtes sensible aux arts, on le voit chez vous. Vous avez aussi fait une rencontre décisive en lien avec l'art. C'est la rencontre avec Jean-François Perret au milieu des années 90. Jean-François Perret qui est metteur en scène. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette rencontre? Comment elle s'est faite et pourquoi elle a été décisive?
Oui. Si vous voulez, c'est une période où Jean-François Perret est faut le dire quand même. C'est un homme de théâtre. C'est un fabricateur de théâtre, je dirais. Et c'est quelqu'un qui est un metteur en scène extraordinaire. C'est probablement, pour moi, un des plus grands metteurs en scène français, et peut-être même au-delà de cette période. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse, évidemment, au théâtre global, mais aussi à la place du théâtre dans une société contemporaine, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aussi à des sujets contemporains. Voilà, c'est pas uniquement remonter ou creuser le sillon de Tchekhov ou de. Il est intéressé par les nouvelles technologies, par la science qui se fait, et aussi par la science qui s'est faite, s'inscrivant dans l'histoire aussi des sciences. C'est-à-dire que, au fond, j'ai rencontré quelqu'un qui a une espèce d'approche, je dirais un peu diachronique, un petit peu de ce qu'il fait, mais qui a aussi un intérêt pour tout ce qui est très très contemporain. Et donc. À l'époque, il montait un spectacle sur Turing. En fait, plutôt sur à la fois sur la machine de Turing, mais aussi sur le test de Turing, plutôt, à l'époque. C'était donc à MC93, hein, c'était à Bobigny. Et il a une façon très particulière de faire, qui est de rassembler des gens qui sont des spécialistes de telle ou telle discipline autour de la table avec les acteurs pour avoir un contact avec les acteurs, expliquer aux acteurs de ce dont il s'agit, d'une certaine façon. Et c'est au cours de ces échanges que les acteurs améliorent le texte qui leur a été donné au départ et sur des bases d'interprétation. Enfin, c'est un théâtre expérimental dans lequel les acteurs jouent un rôle important aussi. Et donc, dans cette pièce sur Turing, l'histoire naturelle de l'esprit, on lui avait dit que Prochian s'intéressait à Turing. Et donc, il m'a demandé, écoutez, est-ce que vous voudriez venir vous asseoir autour de la table avec d'autres, hein, parce qu'il invitait beaucoup de gens. Et puis, oui, j'y suis allé, et ça a été une amitié qui s'est créée, parce que j'ai fait ça plusieurs fois. Hein, il y a un jour, il m'a dit, pourquoi on ne ferait pas vraiment un truc ensemble? Parce qu'il savait que j'étais morphogénéticien. Le Turing qui m'intéressait, moi, ce n'était pas le Turing... je dirais de la machine de Turing.
L'informaticien.
Voilà, c'était peut-être le Turing de la philosophie, de l'article de Mind, mais c'était surtout le Turing des morphogènes, qui était très peu connu. Hein. Enfin, les gens ne savaient pas que Turing avait fait une théorie sur les morphogènes et qui moi m'intéressait beaucoup parce que elle ressemblait aux morphogènes que j'avais non pas découvert, parce que bon, vous dites votre découverte, c'est plutôt une observation qui, à force de travail, s'est transformée en quelque chose qui se fera peut-être si l'avenir le dira, une découverte. Ce que j'espère, bien entendu, mais enfin, en même temps, on contrôle pas ces choses-là. Et donc, il faisait un traité des formes. Après avoir fait un traité des passions, il a fait un traité des formes. Et il m'a dit, bon, bah, tu es morphogénéticien, un petit peu avec un air moqueur, mais pourquoi est-ce que tu travailles pas avec moi? Donc, on a travaillé et on est devenus très amis. Hein, on est toujours très liés. Hein, on se voit très régulièrement. Et donc, la façon dont on travaille, c'est, on fait du texte. C'est-à-dire que on s'écrit, ça a été publié, hein, les variations d'Darwin, la génétique pythagoricienne, etc. Donc on fait du texte, on s'écrit, on passait pas mal de temps ensemble l'été ou l'hiver à la campagne. Et puis après, lui prend ce texte et extrait ce qu'il appelle une partition zéro. Et c'est ça qu'il offre à l'interprétation des acteurs. Et là, je vais autant que je peux aux répétitions, mais je ne me mêle de rien, sauf si on me le demande. C'est-à-dire que, oui, je ne demande pas, Perret ne va pas venir diriger mon laboratoire, d'accord? Donc moi, je ne vais pas aller diriger, c'est un métier, hein, d'être metteur en scène. Et donc, mais si on me le demande, on reprend le texte, je discute avec les acteurs, leur explique un petit peu de quoi il retourne, mais uniquement à de la demande. Donc en fait, c'est entièrement Perret qui travaille. Mais le texte, je dirais, le texte de départ est un texte d'une réflexion et d'une discussion, il y a quand même entre 200, 300 pages à chaque fois, qui se fait entre Perret et moi, ou Perret et d'autres, quand c'est pas moi, parce que Perret fait ça avec d'autres que moi, bien entendu. Donc, si vous voulez, c'était très important pour moi, parce qu'on parlait, il y a trois soirs, de la science nocturne. C'était très important pour moi parce que ça m'oblige, si vous voulez, à prendre du temps pour lire des choses que je ne lirais pas si je n'y étais pas obligé. C'est-à-dire que, par exemple, quand il me dit, il faut que tu vas faire un truc sur Darwin, à ce moment-là, il faut lire, on dit relire, hein, mais il faut lire en réalité tout Darwin. Puis la correspondance, ses petites mémoires là qu'il avait fait, et puis les grands textes. Et vous apprenez beaucoup sur ce que vous faites, comme on le disait l'autre jour. Parce que lire ces gens-là, on n'en sort pas indemne, même pour sa propre recherche. Et pour Turing, ça m'a fait la même chose. C'est-à-dire, quand il m'a obligé, je me suis obligé à travers lui, à relire, comme on dit, mais en fait à lire Turing, j'ai été ébloui. Et en particulier, c'est là que j'ai compris que ce que je faisais avait été déjà découvert par Turing. Hein. Alors, ça peut être blessant sur le plan de l'ego, mais c'est extrêmement rassurant aussi. Et ça a à voir avec cette distance entre des gens comme nous, et puis des gens comme Turing, des gens comme Darwin. On mesure la distance. Et je pense que c'est très important d'être capable de mesurer la distance et de savoir où on se situe, c'est-à-dire assez bas, hein, dans l'échelle des intelligences, malgré tout. Quand on se compare à des phares de ce type.
Est-ce que vous avez dû relire aussi Ovide? Parce que l'un des premiers spectacles que vous avez fait s'appelle La génisse et le pythagoricien. Il a été monté en 2002. Est-ce que là aussi vous avez trouvé une espèce de fenêtre scientifique?
Oui, bien entendu, originale. Parce que Ovide, c'est un type formidable, parce que vous voyez, il vous prend une femme et il en fait une vache. Hein, c'est de l'évolution rapide. Où il prend un animal et il en fait un caillou. Enfin bon, enfin, sur un humain, il en fait un caillou. Donc en fait, c'est des changements de forme instantané, comme ça, voilà. Et évidemment, pour nous, faire ça, ça demande beaucoup de boulot. Et donc, on avait pris... donc, ça m'avait intéressé, cette réflexion sur les formes, au fond. Puis aussi, cette réflexion sur l'animisme, parce que il y a quelque chose dans nos sociétés contemporaines d'une sorte de retour à l'animisme, dont on parlera peut-être si on a le temps. Mais donc, tout ça m'avait énormément intéressé. Et on était parti, si vous voulez, du moléculaire avec les prions, hein, qui sont des protéines qui changent de forme et qui deviennent infectieuses. Et puis, du moléculaire au génétique, etc. Donc, oui, c'était toujours intéressant de confronter, même à très grande distance sur le plan du temps, parce que, bon, ça fait quand même 2000 ans, presque, ce que des grands poètes ont pu rêver sur les formes, et aussi sur la place des humains dans la nature, d'une certaine façon, à ce qu'on peut en penser ou en écrire aujourd'hui. Donc oui, ça m'a aussi fait beaucoup travailler, oui.
Après la génisse et le pythagoricien, il y a eu des chimères en automne, les variations Darwin, toujours dans ce triptyque du traité des formes. En 2011, vous avez poursuivi votre aventure avec Ex Vivo In Vitro. Comment, quand on a l'habitude d'écrire des livres scientifiques, des articles scientifiques, on écrit pour le théâtre en scientifique?
Justement, je n'ai pas écrit pour le théâtre. C'est Jean-François qui a écrit pour le théâtre, et c'est les acteurs qui écrivent pour leur propre théâtre au cours de ces répétitions. Moi, ce que j'ai fait, c'est simplement éclairer Jean-François sur des questions scientifiques, puisque c'est quelqu'un qui s'intéresse au monde contemporain. Et sur des questions scientifiques sur lesquelles j'avais un minimum d'expertise. Quand il s'agit de faire un tournant autour de Galilée, j'étais là parce que, bon, j'aime bien et j'ai pu discuter, mais la personne qui l'a aidé, c'est Françoise Balibar. Donc il s'adresse aux spécialistes qui peut l'intérêt. Et quand il s'agissait de faire un spectacle sur les mathématiques, il s'est adressé à des mathématiciens. Donc... quand c'était de la biologie, et puis à Jean-Didier Vincent aussi, pour le Faust. Donc, oui, c'est quelqu'un qui est assez... il va chercher d'experts. Il se trouve qu'en plus, il y a une amitié qui s'est créée. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire, une amitié. Donc, voilà. Ex Vivo In Vitro, par exemple, c'était une occasion de réfléchir sur les nouvelles formes de reproduction. Hein. C'est pas rien. Hein. Aujourd'hui, on parle de la PMA, on parle de la GPA... je pense que le travail qui a été fait là, et moi je trouve que c'est une très belle pièce, hein, qu'il a montée à la colline.
2011.
Était déjà une façon de fournir aussi au public les moyens de réfléchir sur des questions qui sont des questions sociétales d'une certaine façon. D'accord? Donc, ouais, c'était. Il est assez en avance chaque fois qu'il fait quelque chose, le Perret. Ouais, il est assez en avance.
Et pourquoi est-ce que, on va dire, des mauvais coucheurs qui vous regarderaient un petit peu avec une certaine forme d'ironie, pourquoi pour vous, ce genre de pratique, c'est aussi faire de la science?
Parce que je vous dis, ça m'oblige à chaque fois à aller lire des choses que je n'aurais pas mises à mon programme. Parce que, vous savez, quand on est un scientifique, de quel que soit le niveau auquel on prétend ou auquel on travaille, hein, ou prétend travailler ou travaille, c'est quelque chose qui est très très prenant. On a le nez dans le guidon en permanence, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de courir après le temps. Bon, faut pas se plaindre, c'est un métier magnifique, mais on n'a pas le temps de faire un pas de côté, très peu. Et donc il faut s'obliger à faire des pas de côté. Et donc ça m'oblige à faire un pas de côté, parce que si je mets à mon programme, alors il faut que je le fasse. Et donc et quand je dis oh là là, ça me fait chier. Ouais, et puis je dis oui, et je sais pourquoi je dis oui, parce que je sais qu'au bout de ça, il y a un gain pour moi, un gain scientifique. Hein. Parce que quand vous lisez Turing ou Darwin, il y a un gain scientifique pour ce que vous faites aujourd'hui. Vous savez, le faire de la science, c'est pas toujours être au dernier moment d'un processus. C'est aussi comprendre ou essayer de comprendre le processus dans son entier depuis que la question théorique a été posée. Et donc, oui, c'est un gain énorme. Je pense que si j'étais pas trop mauvais, enfin j'espère, c'est aussi lié à cette activité nocturne. Et pour moi, c'est de la science faite d'une autre façon, oui, ça, certainement. Donc oui, j'ai appris beaucoup. Vous savez, c'est un peu comme de faire un cours au Collège de France. Tous les ans, il faut changer de cours. Les gens disent, ils font 9h, 18h de cours, c'est rien. Mais quand il faut changer le cours tous les ans et faire le cours sur les domaines qui sont fréquents, récents, je veux dire, pour moi, c'était 3 mois pleins de préparation. Et faire ça, ça m'a fait progresser énormément. Hein. Quand vous entrez au Collège de France, vous n'avez peut-être pas le niveau d'un professeur au Collège de France. Mais à force de faire des cours, comme vous êtes obligé de creuser tous les ans des choses nouvelles, vous finissez par acquérir ce niveau. Mais à chaque fois, c'est une corvée, c'est-à-dire... Mais il y a un gain. Il y a un gain, parce que vous mettez à votre programme de cours des choses que vous n'auriez pas lues, des choses de dire, ah, ça, faudrait que je creuse. Et puis, bon, on est pris dans le maelstrom. Puis, si vous le mettez au programme, vous êtes obligé de le lire. Et à ce moment-là, l'effort étant fait, eh bien, l'effort, ça rend toujours quelque chose. C'est du même ordre.
On reviendra un peu plus tard à votre pratique d'enseignement au Collège de France.
Ça en fait partie, c'est un peu la même chose.
Tout ça, finalement, fait partie d'une certaine forme de transmission. Si on reste un petit peu dans l'écriture que vous avez pratiquée, est-ce que lundi, quand on se parlait, vous me disiez, au détour d'une phrase, en fait, j'aurais dû être un littérateur. Est-ce que là, finalement, en travaillant avec Jean-François Perret, vous accomplissez finalement ce désir d'écrire?
Je ne crois pas que j'aurais dû être un littérateur. Si j'ai dit ça, je le retire. Je pense que il y a une littérature scientifique. Et je crois que j'ai essayé de faire de la science, ou j'ai été contraint de faire de la science à cause de mon tempérament, ou de ma culture, ou de mon histoire, un peu de façon littéraire, un peu comme on fait de la littérature. Voilà. Ça peut être très mal vu, hein, j'en sais rien, et puis après tout, ça m'est parfaitement égal. Mais pour moi, c'était la façon de m'intéresser à la science comme un objet autre, si vous voulez, qu'un objet purement logique. Voilà. Même si c'est aussi un objet purement logique. Mais on est des humains, hein, et donc on travaille aussi avec son cerveau, et c'est pas une machine parfaite. On a des affects, on a des difficultés, on a des... Et ça fait partie aussi du chose à gérer dans une approche purement scientifique. Et je crois qu'il y a une espèce d'ajustement entre l'imperfection de l'humain qui est un scientifique et l'objet purement logique qu'on voudrait créer et les théories purement logiques qu'on voudrait mettre en place. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du hiatus qu'il faut gérer. Et je crois que la science nocturne permet de le gérer, oui, un truc comme ça. Je sais pas, j'invente là, mais c'est un petit peu... Voilà, vous me poussez un peu, voilà, je me laisse pousser.
Le théâtre, c'est un lieu où le langage a une place première, où le langage s'invente. Est-ce que vous pourriez nous détailler, nous parler un petit peu du rapport auquel on pense pas forcément souvent entre la science et le langage ?
Ah oui, bien sûr, c'est un de mes sujets d'interrogation, hein. Parce que vous savez, bon, la Renaissance, Galilée, le grand livre de la nature écrit en langage mathématique. Donc il y a cette idée qu'il y a les langues naturelles, et puis qu'il y a les langues non naturelles comme les mathématiques. Et encore, les mathématiciens ne vous diraient pas forcément que ce ne sont pas des langues naturelles, ce sont peut-être des langues naturelles pour eux, hein. Donc faut se méfier. Mais bon, il y a aussi cette idée que, par exemple, la biologie ne sera véritablement une science que le jour elle sera entièrement mathématisée ou mathématisable. C'était l'idée de Darcy Thompson, hein, dont on a parlé le premier soir. Moi, je pense que la langue, c'est pas n'importe quoi. Que le langage naturel, c'est pas passe-moi le beurre, je te donnerai le sel. C'est le langage naturel, c'est un outil extraordinairement fin, mathématique d'une certaine façon, avec ses règles, ses constructions, extrêmement fin d'analyse du réel. Je ne ferai pas cette distinction, si vous voulez, si ferme entre langage naturel et mathématique. Alors, le danger du langage naturel, c'est que le sujet de la science apparaît dedans. C'est-à-dire que, oui, monsieur machin, madame un tel, avec ses affects, avec son histoire, apparaît dans sa pratique du langage. Et donc, le langage naturel laisse une place au sujet. Or, la science veut éliminer le sujet, elle veut être purement objective. Elle est un peu paranoïaque, hein, au sens du président Schreber. Donc, éliminer les sujets. Alors, en fait, on ne peut pas éliminer les sujets de la science. Hein, ce sont des humains qui font de la science. Et ça, dans la pratique du langage, ça apparaît. Même s'il faut s'en méfier énormément, il faut mieux le savoir que ce sont des humains qui font de la science, ce sont des gens imparfaits, des êtres qui peuvent avoir des faiblesses ou même des accidents, petits pétages de vaisseaux dans le cerveau. C'est un cerveau, c'est pas joli à regarder. Hein. Si vous avez Turing disait ça a la consistance du porridge tiède quand on enfonce le doigt dedans, mais c'est tout à fait ça. Et en plus, il y a du sang, c'est pas un organe impeccable. Donc et malgré tout, ça envoie des hommes sur la Lune. Donc c'est ça, vous voyez, cette espèce de hiatus, et je crois que oui, il faut savoir que il y a des sujets de la science, et ça rend peut-être la science pas aussi parfaite qu'on le voudrait, mais il faut se méfier du désir de perfection absolue. Je pense qu'il est toujours un peu dangereux. Il faut être conscient de la faiblesse.
Si on reste dans ces considérations autour du langage et du langage scientifique, est-ce que pour innover en science, pour avancer en science, il faut sans cesse inventer un langage, réinventer un langage?
Oui, probablement. Il faut s'inventer son langage. C'est plutôt ça que je dirais. C'est-à-dire que justement parce que je crois que j'ai bien lu, peut-être pas très bien lu, les grands anciens, c'était des gens qui faisaient des grandes monographies, par exemple, et j'ai toujours eu le sentiment que c'était des gens qui s'inventaient un langage, leur langage, pour traiter les questions qui les intéressaient. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut se construire son propre langage pour s'avancer sur des voies nouvelles. Ça fait partie du risque qu'on prend quand on s'engage sur des voies nouvelles. Et là, bien sûr, je ne parle pas de moi. Hein. Je parle vraiment de ce que j'ai ressenti à la lecture de ces phares, pour qui j'ai une admiration, vous sentez bien, qui est sinon démesurée, en tout cas sans borne.
Est-ce que vous en faites les égaux de grands poètes,
ces phares? Oui, bien entendu, oui, ce sont des grands poètes. Bien sûr que ce sont des grands poètes. Ce sont des grands intellectuels, ce sont d'immenses poètes. Quand on dit les phares de Baudelaire, c'est des poètes et des peintres. Eh bien, il y a aussi des phares dans les sciences, au même titre. Vous savez, tout le monde n'est pas Darwin, tout le monde n'est pas Einstein. C'est comme ça, quoi. Je veux dire, il faut s'y faire. Mais en même temps, c'est beau que l'espèce humaine ait pu accoucher de gens comme ça. Ouais, c'est magnifique.
Donc, si je vous écoute bien, les scientifiques sont aussi, d'une certaine façon, des créateurs.
Ah, les scientifiques sont des créateurs. Il y a toutes sortes de scientifiques, je crois qu'on le disait avant-hier. Là, je réfléchissais à ce que, vous savez, ce mouvement Sauver la recherche, qui a eu un moment qui disait on n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie. Mais quoi qu'on puisse penser de ce mouvement, c'est une assez belle métaphore, parce que c'est important d'améliorer la bougie. La lampe à pétrole, d'une certaine façon, est une amélioration de la bougie, c'est quand même beaucoup mieux. Donc il faut améliorer la bougie. Et puis il y a des gens qui tout d'un coup inventent l'électricité. Alors là on change complètement de paradigme. Donc il faut tout. Il faut des améliorateurs de la bougie. Et puis il faut des gens qui sont, pour des raisons qu'on ne sait pas très bien, comment ai-je trouvé. Je vous disais, la vraie question d'un grand scientifique, c'est comment ai-je trouvé. C'est pas une méthode pour trouver. Et ça on le voit bien quand on lit les mémoires ou les livres de ces gens qui passent leur temps à se ressasser cette question, mais comment ils trouvent. Mais bon, tout d'un coup, il se trouve qu'ils trouvent quelque chose qui les fait sortir du sillon, voilà. Et réinstaller un nouveau sillon, bien entendu, mais sortir du sillon précédent. Donc ça, c'est... Oui, on ne sait pas comment ça se passe hein, dans un cerveau. C'est compliqué, hein, on ne sait pas comment ça se passe. Mais tout d'un coup, ça se passe, voilà.
Est-ce que cette pratique aussi du théâtre, en tout cas, cette collaboration théâtrale, elle a une vocation à faire de la science différemment et à transmettre des connaissances différemment. Quelle est la place de la transmission de vos connaissances pointues?
Je ne serais pas professeur si je n'avais pas la claire conscience qu'il faut transmettre. Vous savez, nous vivons dans un monde extraordinairement scientifique. Dans les 100 dernières années, le monde s'est technologisé à un point ahurissant. Et on pense toujours avec, surtout le grand public ou les politiques, hein, faut bien le dire, ont toujours des outils conceptuels qui datent, en gros, du 19e siècle. Hein, et c'est dangereux. C'est dangereux parce que, comme dit Perret, justement, si vous vous intéressez pas à la science, méfiez-vous, elle, ça s'adresse à vous. Et donc, il est important que le public, dans toutes ses composantes, hein, je parlais des politiques aussi, mais des professeurs du secondaire tout autant, et peut-être même plus, du primaire, ait une compréhension aussi fine que possible de ce qui se fait dans les sciences et dans les technologies. Et je crois que c'est un devoir pour un scientifique de participer à cette éducation, non pas en vulgarisant, c'est un terme que je déteste, hein, c'est un terme populiste, mais au contraire, en essayant de monter le niveau scientifique des, ce qu'on dit, le public, au le plus possible, hein, sans faire de compromis sur le contenu de ce qu'on leur dit. Vous voyez, vous parliez du théâtre, bah pour moi c'est un petit peu l'équivalent du Théâtre National Populaire de Jean Villard. Hein. C'était pas quelqu'un qui faisait des paillettes pour distraire, c'est quelqu'un qui se donnait des textes difficiles, et tout ce qui s'est passé dans les banlieues françaises, à MC 93, à Nanterre, etc., c'était des textes qui ont été donnés à un public qui étaient des textes d'avant-garde, des textes extrêmement compliqués. C'était pas du théâtre de boulevard, même si j'ai rien contre le théâtre de boulevard, c'est pas le problème, mais c'était vraiment quelque chose qui n'était pas marqué, je dirais, d'un mépris pour les gens qui ne savent pas. C'était marqué d'une intention de faire comprendre aux gens qui ne savent pas, en sachant qu'ils peuvent comprendre. Et je crois que c'est tout l'enjeu de... C'est un enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu culturel. On peut pas vivre dans un monde dont on ne comprend pas les clés. C'est dangereux même. Ça peut vous emmener dans le mur. Je crois que tous les débats sur aujourd'hui, les réchauffements de la planète, etc., sont malheureusement marqués par cette incompréhension scientifique. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se disent qui malheureusement dénote que le niveau scientifique de nos sociétés n'est pas ce qu'il devrait être.
Alain Prochain, hier, vous m'avez dit « je ne crois pas que la vie ait de sens ». Est-ce qu'en faisant ça, et en faisant vos recherches, en faisant ça, je parle du théâtre et de votre collaboration théâtrale, et en faisant vos recherches dans votre laboratoire, vous cherchez quand même, malgré tout, à donner un sens à la vie ?
Non, je ne crois pas. Bon, c'était peut-être un petit peu
une boutade.
Une boutade, mais je n'aime pas les gens qui disent qui cherchent le sens de la vie, ou qui veulent donner un sens à leur vie. Je me méfie beaucoup de ça, parce que moi, j'aime pas parler de moi, vous m'y forcez un petit peu depuis quelques jours, mais...
C'est l'exercice.
C'est l'exercice, mais... ce qui m'intéresse, c'est de prendre du plaisir. Voilà. Je suis assez animal de ce côté-là. Voilà. Mais mon plaisir n'est pas purement animal, même si je ne dédaigne pas les plaisirs animaux. Mon plaisir est aussi un plaisir intellectuel. J'ai du plaisir à comprendre. J'ai dit quand j'ai cru avoir découvert quelque chose, j'ai eu quelque chose de l'ordre du plaisir physique. Hein, je pense que c'est très plaisant. Et c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre ou de faire comprendre. Et c'est dommage de voir... Moi, j'aimerais que tout le monde soit, d'une certaine façon, scientifique, c'est-à-dire ou littéraire, ou je crois que c'est possible. Voilà, donc, ouais, le plaisir pour moi est quelque chose d'un plaisir. Tous les plaisirs sont pour moi importants. Alors, ça donne pas un sens à la vie, ça permet simplement de vivre, voilà. Parce que quand on ne croit en rien, il faut aussi trouver des raisons de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on veut donner un sens à sa vie, il faut donner des raisons de vivre. Je pense que le plaisir, ça peut être une bonne raison, oui.
Merci beaucoup, Alain Prochain. À demain.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Alain Prochian. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Yann Fressy, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.